On se retrouve aujourd'hui et je pense à vous tous qui sont derrière les écrans et j'ai une pensée particulière pour ceux qui sont seuls devant leur écran parce que voilà, ils sont seuls chez eux pendant cette période de confinement et j'ai une pensée particulière pour vous et c'est vrai qu'on prie particulièrement pour tous ceux qui sont seuls chez eux derrière leur écran, qui n'ont pas de famille autour d'eux et nous prions pour vous. Même si je sais que vous êtes en contact pour certains avec vos familles, par téléphone, par Zoom, etc. Mais au moment du culte, on a une pensée particulière pour vous et bientôt on pourra se retrouver. On ne sait pas trop ce que le gouvernement va décider, mais on va finir par se retrouver. Je pense qu'on est tous un petit peu comme ça. On apprécie les choses qu'on n'a plus. Depuis l'enfance, hein, on a cette tendance, nous les humains, d'apprécier plus les choses dont on est privé. Et je pense que ça tombe bien qu'on prêche sur les uns les autres, parce qu'on est privés les uns des autres. Et on peut du coup un petit peu plus apprécier l'importance de la communauté. Alors, on avait travaillé sur la notion de « exhortez-vous les uns les autres ». Et on avait insisté sur la responsabilité de chacun dans l'Église. Contrairement à ce que Caïn avait dit, suis-je le gardien de mon frère ? Et c'est vrai que parfois on peut être tenté de penser comme ça, c'est sa vie, ça ne me regarde pas. Et dans l'Église, non, ce n'est pas comme ça. Et il y a une co-responsabilité de chacun envers chacun. Alors maintenant, il faut la définir correctement, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements qui ont tellement mis en pratique que, en particulier ce qui a été appelé pendant un temps le shepherding, où il y avait une sorte de dictature de l'un sur l'autre, et ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite. Hein. Ce n'est pas ce que la Bible demande non plus. Et d'ailleurs, Jésus n'exerce pas de dictature. Et on le sait bien, puisqu'il nous laisse souvent faire les pires bêtises, et c'est là qu'on apprend aussi des choses. Donc la question qui s'est posée, c'est est-ce que nous osons, surtout dans notre civilisation française, occidentale, est-ce qu'on ose exhorter l'autre pour éviter par exemple sa chute dans un problème, un péché, une difficulté? Est-ce qu'on ose lui rappeler ce que Dieu a fait pour lui? Alors Robin, il le sait, il sait très bien, le sacrifice de Jésus, on en parle tout le temps. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas utile parfois de se rappeler qu'il est mort aussi, bien sûr pour l'humanité, mais pour nous personnellement, pour nous pardonner, pour nous libérer de tout ce qui nous pèse, pour enlever nos fardeaux, enlever notre culpabilité? Est-ce qu'on ose rappeler à notre frère, à notre sœur, qu'on a reçu un appel, chacun individuellement? Alors on a tous été appelés à être ambassadeurs de Christ, mais on a chacun un appel particulier à l'intérieur de ce travail d'ambassadeur. Et vous savez que dans une ambassade, il n'y a pas que l'ambassadeur, il y a tout un personnel qui est affecté à différentes tâches, à différents appels. Et en tant que chrétien, c'est un petit peu la même chose. Est-ce que ce n'est pas bon parfois de rappeler, d'exhorter l'autre, frère ou sœur, à être un bon ambassadeur de Christ? Rappelle-toi l'appel que Dieu a mis sur ta vie. C'est important. Est-ce qu'on ose le faire? Est-ce qu'on ose rappeler les promesses de Dieu? Et ce matin, en pensant à tous ceux qui sont derrière leur écran, je pensais à ce verset, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » C'est une promesse de Dieu. Et dans ces moments un peu difficiles, c'est très important de se le rappeler. Est-ce qu'on ose redire à l'autre comment être libéré de son péché, son addiction, sa vie de désobéissance? Oula, ça devient plus difficile, hein? Est-ce qu'on ose? C'est ça, ça fait partie de l'exhortation. Et le verset d'Hébreux 3, alors je l'ai relu je ne sais pas combien de fois parce qu'il y a tellement de choses dedans. J'ai essayé de classifier un peu les choses et j'ai un peu souffert sur ce verset. Hébreux 3, versets 12 à 14. Alors c'est dans la version Parole vivante. « Prenez garde, frères, qu'aucun de vous n'ait un cœur incrédule et mauvais au point de se détourner du Dieu vivant. Vous voyez, les causes du détournement, c'est l'incrédulité. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, autrement dit, chaque fois qu'on se rencontre, exhortez-vous. Et c'est là que nous, peut-être, occidentaux, on coince un petit peu, on ne va pas, quand même, hein, pas abuser une fois de temps en temps, mais chaque fois qu'on se rencontre, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, celui-là aussi m'a fait beaucoup réfléchir, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants du Christ, pourvu, ah, celui-là il fait mal, que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Alors il y a énormément de choses dans ce verset, je vous dis, ça m'a donné beaucoup, beaucoup de soucis. Alors, s'exhorter chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien parce que, aujourd'hui, on peut encore faire quelque chose. Demain ne nous appartient pas, et hier il est trop tard. Donc, on vit dans l'aujourd'hui, et il ne faut pas oublier. Et c'est toujours un danger d'ailleurs, de vivre dans le passé ou dans l'avenir. Parce que demain, on ne sait pas du tout ce qui se passera. Qui aurait prévu qu'en 2020, on serait cloîtré chez nous, que pour certains c'était une très bonne période, pour d'autres c'est plus difficile, mais qui aurait prévu ça ? Je ferai, j'irai, vous savez ce passage, je crois que c'est une parabole d'ailleurs, où il parle de l'homme riche qui dit voilà, je vais accumuler dans mes greniers, je vais faire ceci, et la nuit il meurt et tout est fini. Demain ne nous appartient pas. Donc on ne peut pas trop compter sur demain, on ne sait pas ce qui se passera. Hier, ben c'est trop tard, on ne peut pas le refaire. Ce qu'on a fait hier, que ce soit des bonnes choses ou des bêtises, c'est passé. Et ce n'est pas toujours facile à réparer. Donc aujourd'hui, la Bible insiste sur l'aujourd'hui de Dieu. C'est maintenant le temps du salut, c'est maintenant le jour du salut. Et on va revoir ce genre de verset partout dans la Bible, aujourd'hui. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, et ainsi de suite. Vous pouvez regarder dans une concordance, vous allez voir, c'est très important aujourd'hui. Donc, pourquoi exhorter chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, pour ne pas regretter des occasions perdues ? Combien on a eu d'occasions d'exhorter quelqu'un, et puis on n'a pas osé, ou les mots ne sont pas venus, ou alors au lieu de parler de la part du Seigneur, on a parlé de la part de notre cœur. Et je sais que j'ai demandé pardon à Dieu, mais c'est quand même quelque chose qui est sur ma conscience très fortement, où j'ai eu une occasion unique une fois, mais j'étais jeune, j'avais 22-23 ans, et une personne, au cours d'une réunion à Paris, m'avait dit « je suis une mauvaise personne, j'ai fait du mal, etc. » Et comme c'était une chrétienne responsable, j'ai pas voulu rentrer là-dedans. J'ai pas voulu dire c'est vrai et voilà, faire le travail d'exhortation qu'on est appelé à faire. J'ai raté une occasion qui s'est jamais reproduite. Et cette personne a fait souffrir beaucoup de gens pendant des années. Et qui sait si j'avais accepté ce jour-là de faire ce rôle d'exhortation. Mais c'était une personne plus âgée que moi, qui avait des responsabilités. Elle était vraiment sous une conviction de péché. J'ai raté cette occasion. Et c'est pour ça que quand je lis ce verset, ça me parle beaucoup. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Ne ratons pas des occasions. Peu importe si on a des bons arguments, mais les plus âgés, elle en sait plus que moi, gna gna gna. Mais si Dieu vous met dans des circonstances comme ça, n'hésitez pas. Il ne s'agit pas de dire ce que vous avez sur le cœur, il s'agit de dire ce que Dieu veut que la personne entende. Et mon rôle ce jour-là, ça aurait été d'offrir la délivrance, le pardon. Et pas de, voilà, plâtrer les choses et... mais non, c'est pas vrai, pensez pas ça, vous êtes une gentille personne. Voilà, donc exhortons chaque jour, chaque fois que l'occasion se présente. Même si on se sent un peu bête, un peu... Oh, peu importe. Faisons ce que Dieu nous demande au moment où il nous demande, pour pas regretter les occasions perdues. Alors, après, il y a un problème, c'est afin que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. Alors ça, c'est le genre de verset qui a beaucoup de mots, mais on a du mal parfois à mettre une réalité derrière. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois quand je lis des versets comme ça, personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. Eh bien, j'ai travaillé un peu sur ce verset, parce que franchement, je trouvais que c'était un peu vague. Exhorté parce que, parce que le péché séduit. Vous savez, on ne se lève pas le matin en disant « je vais insulter mon voisin, je vais voler quelque chose, ou je vais tricher, ou je vais, etc. etc. » Il n'est pas question de... Enfin, je ne pense pas que ça vous arrive souvent, hein, de vous lever le matin en disant « je vais être méchant !» Et pourtant, le péché, il est là, et on se laisse souvent avoir. Parce que le péché séduit. Son rôle, c'est de nous séduire. Il ne vient pas avec ses gros sabots. Le principe est simple. Séduire, ça vient du latin, qui veut dire conduire à côté. Doukere, c'est conduire. Voilà. Conduire à côté. Et l'idée du péché qui séduit, c'est qu'il ne vient pas comme une grosse brute, mais il va doucement vous entraîner sur un chemin de traverse. Tout doucement. Sans que vous vous en rendiez trop compte. Et combien il y a de choses dans nos vies qui se sont installées comme ça. Des faux raisonnements, des visions du monde, ce qu'André appelle paradigme, des choses qui viennent un peu innocemment dans nos vies, soit parce qu'on est influencé par quelqu'un ou quelque chose, ou simplement par notre être naturel, que la Bible appelle la chair. Et puis ça se fait en douceur. Le péché séduit. Ah ! Donc c'est pour ça qu'il faut s'exhorter. Parce que le péché, il ne vous saute pas dessus. Vous savez, moi, j'ai toujours peur des araignées parce que j'ai l'impression qu'elles vont me sauter dessus. Or, avec les années, je me suis aperçue que les araignées, en France, tout au moins, ne nous sautent pas dessus. Mais quand même, c'est l'impression. Et le péché, il ne fonctionne pas, il ne nous saute pas dessus, mais il nous séduit. Il nous prend part tout doucement. Et petit à petit, on se retrouve dans une autre direction. Je crois que je vous ai déjà raconté cette histoire, mais je la raconte parce qu'elle me plaît bien. De Josué Daniel, donc ce prédicateur indien que je connaissais bien et qui était sur une grande plage en Inde. Et vous savez, ces plages où la mer est très loin et où il y a une grande étendue de sable, un peu comme à Deauville ou à Oulgat, où la mer peut être très très loin. Et il se promenait, il voulait prier tranquille. Donc, et il y avait énormément de vent. Alors, il était bien emmitouflé et bien sûr, comme il priait, il n'y avait pas de danger hein, sur le sable, il marchait droit devant lui, il avait fermé les yeux. Et comme le vent était fort, petit à petit, alors je ne sais pas dans quel sens, j'imagine dans celui-là, parce que si la mer était là, il est doucement allé vers le côté. Et au bout de, je ne sais pas, un grand temps, parce qu'il était capable de prier des heures, il s'est retrouvé dans l'autre sens, par rapport à ce qu'il voulait. Parce que progressivement, j'imagine millimètre par millimètre, il avait fait demi-tour en résistant au vent, et c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça a dû être plus confortable, parce qu'il avait le vent derrière au lieu de l'avoir devant. Donc, c'est comme ça que le péché agit. Il nous séduit tranquille et on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte qu'on ne pense plus la même chose qu'au début où on a connu le Seigneur, qu'on commence à voir les choses de travers, qu'on commence à plus bien entendre la voix du Seigneur, à lire la Bible de travers. Je me souviens de cette période où on faisait avec André un stand biblique à l'annexe de la Sorbonne, à Sancier, et... J'étais en train de lire Les Juges, c'est un livre quand même difficile, et tous les matins, je commençais à critiquer un peu le texte. C'est rigolo, hein, c'est pas mon caractère en plus, mais chaque fois que je lisais la Bible, je la critiquais un petit peu plus. Oh là là, pourquoi il dit ça? Oh là là. Et puis, un jour, je dis, mais ça va pas là. C'est plus du tout ce que j'ai vécu dans ma vie chrétienne jusqu'à présent. Qu'est-ce qui se passe? Et je me suis aperçue qu'à force de discuter, on discutait des heures avec les maoïstes, à l'époque c'était le grand truc, hein. Maintenant ça ne vous dit plus grand-chose, les maoïstes, les marxistes, on avait tout un tas, il y avait les gens de Harakiri qui est devenu Charlie Hebdo, et ces gens-là nous attaquaient en permanence, on défendait la foi et on répondait à leurs questions. Mais quelque part, vous voyez comment le péché séduit, leur forme de raisonnement finissait par d'éteindre un peu sur notre façon de voir les choses. Et j'ai dû prier pour ça. Et j'étais très contente quand, des années après, Annie Stéphane m'avait dit, elle avait été elle-même marxiste, je crois, hein, Et elle me disait que ça la gênait dans sa lecture de sa Bible autrefois. Je pense que c'est fini maintenant, mais que ça l'avait gênée parce que ça déforme le regard. Et voilà comment le péché procède. C'est pour ça que je vous explique ça. C'est, il nous séduit tranquille. Change notre regard, change notre écoute. Et pourquoi il faut s'exhorter ? Ben, juste pour que les uns les autres, on se ramène dans le chemin droit. Qu'on quitte ces chemins de traverse. C'est un processus qui peut être très très long. Alors après, il dit aussi ceci, « Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Et quand on s'endurcit, c'est pareil. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous ne vous levez pas un matin en disant « Maintenant, je me suis endurci. » Mais non, on ne s'en rend pas compte. C'est tout doucement, tout doucement. Comme quand vous laissez un objet au soleil, il peut être tout mou, hein, un morceau d'argile bien mouillé, et puis ben, vous le laissez au soleil, vous revenez une heure après, il n'est pas encore dur. Ça va prendre du temps. Il y a des choses qui prennent encore plus de temps d'ailleurs. S'endurcir, c'est un processus aussi qui peut prendre du temps, qui est progressif et qui est souvent lié au découragement. Souvent quand je rencontre des chrétiens endurcis, j'essaie de me dire mais pourquoi ? Et en les écoutant, on s'aperçoit qu'il y a eu du découragement. Il y a eu du découragement, il y a eu des choses qui ont choqué, il y a eu des choses qu'on a mal digérées, et alors on s'endurcit. Et on s'endurcit pas seulement vis-à-vis les uns des autres, mais on s'endurcit envers Dieu. Ah, Dieu ne m'a pas répondu, je voulais qu'il me réponde tout de suite. Pff, Dieu ne m'écoute pas, Dieu m'a abandonné. Et tout doucement le cœur s'endurcit vis-à-vis de Dieu. Et ça aussi c'est un processus qui va se faire tranquille, sans qu'on s'en aperçoive. Puis un jour on va se trouver tellement loin de Dieu, qu'on n'a même plus la possibilité de lui prier. Je vous ai raconté l'histoire de ce maire d'une commune proche de chez moi qui avait été menacé de mort et je lui avais dit, mais écoutez quand même, vous pouvez prier. Je savais qu'il avait été à l'école du dimanche, qu'il avait été bien enseigné dans la Bible. Il m'a dit, ah non, maintenant, j'en suis trop loin. Endurci. C'est dommage. Surtout quand on a des menaces de mort quand même. Donc l'endurcissement, souvent il y a au découragement. Et là aussi on a besoin de l'exhortation des autres pour dire mais non, Dieu est toujours à côté de toi, Dieu ne t'a pas abandonné. Et on en a besoin de l'entendre de temps en temps parce que tout seul, bah, peut-être ça ne va pas revenir, notre cœur s'est endurci. Alors au début il dit aussi qu'aucun de vous n'ait un cœur incrédule et mauvais au point de se détourner du Dieu vivant. Se détourner du Dieu vivant. Je me suis dit, mais quand même, quand on a connu le Seigneur pendant des années, comment est-ce qu'on peut se détourner d'un Dieu vivant et vrai ? Ben c'est pareil, il le dit, le cœur incrédule, incrédule. Incrédule, c'est le doute. Dieu a-t-il réellement dit ? T'es sûr que Dieu t'a appelé ? T'es sûr que Dieu t'a pardonné ? Franchement, t'es pas pardonnable, t'as fait tellement de vilaines choses. Le doute, Dieu a-t-il réellement dit ? Tu crois vraiment que Jésus est mort pour toi ? Tu crois vraiment que Jésus est ressuscité ? Et l'incrédulité, le doute vont laisser la place à l'ennemi dans nos vies. Et notre cœur risque de devenir mauvais, effectivement. Et là aussi, ça peut se faire très progressivement. Alors le remède est là. Prenez garde, au début du verset, prenez garde. Il faut toujours rester sur ses gardes. Ça, moi, je trouve ça dommage. Moi, j'aimerais tellement qu'on n'ait pas besoin d'être toujours sur ses gardes. Mais il faut. Prenez garde et puis exhortez-vous les uns les autres. Et vous savez, quelque chose qui fait beaucoup de bien, c'est les témoignages. Et dans mon église, on en avait trois à chaque réunion, pas les cultes, mais les réunions d'après-midi. Et c'était sympa parce qu'on voyait un peu comment d'autres personnes avaient vécu des choses pareilles ou pires que nous et comment ils s'en étaient sortis. Avec l'amour de Dieu, l'amour des frères et sœurs, etc. Et tous ces témoignages, je les ai stockés. J'en ai entendu certainement, j'avais fait le compte une fois, des centaines en tout cas, sûr. Et c'est un capital de se dire, Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Les témoignages sont une façon d'exhorter, de lutter contre le découragement, de rappeler ce que Dieu a fait et de nous aider à être des ambassadeurs. En se rappelant des promesses de Dieu. Dieu nous libère. Alors, il y a un passage qui est aussi dans ce verset, il est très riche. Hein. « Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » c'est bien parce que c'est bien de l'exprimer comme ça, même si c'est un petit peu compliqué, parce que l'exhortation mutuelle va bien au-delà des conseils moraux. On l'a déjà dit, mais je le répète. Tu devrais, tu dois pas, moralement c'est pas juste, etc. Vous savez, ce genre de conseils moraux qui écrasent un peu et qui n'aident pas beaucoup. La tentation et le péché ne sont pas du ressort de la morale. Ce n'est pas en faisant la morale à quelqu'un qu'on va vraiment l'aider. Vous allez me dire, mais quand même, il y a des choses qui sont morales, puis d'autres qui ne le sont pas. Oui, mais la racine, elle se trouve dans la vie spirituelle. Parce que la victoire sur le péché, ça dépend de notre relation personnelle avec un Dieu vivant et vrai. L'incrédulité, le manque de confiance en Dieu, elle est là, c'est là la racine de l'échec. Et si on regarde notre vie, chaque fois que on a échoué ou on a mal vécu quelque chose, est-ce que c'est pas lié au manque de confiance en Dieu, à notre incrédulité, notre peur? Bien souvent. Et la victoire sur le péché, ça va pas être une question de morale. Pas du tout. L'exhortation mutuelle doit aller bien au-delà des conseils moraux, parce qu'elle concerne la vie spirituelle. Et est-ce qu'on va oser? Alors là, moi, je suis pas sûre que j'oserais, hein, mais... Est-ce qu'on ose? Mais c'est vrai que parfois, ce serait important. Plutôt que de donner des conseils, tu dois pas, il faut pas. Dire, qu'en est-il de ta vie de prière? Oh, c'est privé. Qu'en est-il de ta foi en Dieu? Qu'est-ce que tu vis en ce moment avec Dieu? Quel est le passage biblique aujourd'hui, dans ta lecture de la Bible, qui a pu te toucher? Ah! Le cadre est important là, hein. On peut faire ça entre amis et encore, hein, dans un climat d'amitié et de confiance, mais c'est pas facile. Hein. Est-ce qu'on ose le faire? Et pourtant c'est ça, exhortez-vous les uns les autres chaque jour, c'est pas faire la morale, mais c'est aller à la racine du problème. Qu'en est-il de ta vie de prière? Où t'en es dans ta foi en Dieu? Qu'est-ce que tu vis en ce moment avec Dieu? C'est bon de se poser la question à soi-même, mais est-ce qu'on ose la poser à nos amis, à nos proches? Dans un climat d'amitié, de confiance. Alors, j'aime bien Kuhn, il est très terre-à-terre. Et il dit dans son livre, c'est le genre de choses à faire dans une promenade. Un petit temps de prière avec les amis, une tasse de café, une activité manuelle, une activité qu'on fait ensemble. Alors, je ne sais pas si vous vous voyez faire ça, mais ça vaut le coup d'y réfléchir, de s'exhorter dans ces moments-là, de façon naturelle. Il insiste sur le cadre simple et naturel. C'est certainement plus efficace que de prendre quelqu'un entre quatre yeux, lui dire « Je veux te parler de la part du Seigneur. Je suis là pour t'exhorter, tu prends un chemin de péché. » Oui, c'est ça, non, ça ne va pas forcément aider beaucoup. Par contre, il faut quand même oser poser cette question. Qu'en est-il de ta vie de prière et de ta relation avec Dieu? C'est ça, s'exhorter. Plus que de faire la morale, je crois que ça ne sert pas à grand-chose. Exhortons-nous donc avec courage. Ça nous permettra aussi de mieux nous comprendre et de mieux nous connaître en allant à la racine des choses plutôt que de traiter les branches de l'arbre. Parfois, il faut mieux traiter la racine. Donc ça, c'était pour l'exhortation. Exhortons-nous les uns les autres. Et le texte d'aujourd'hui, c'est « Veillons les uns sur les autres ». Ou alors là, c'est de pire en pire. « Veillons les uns sur les autres ». Hébreux 10, 24. Là encore, l'appel à veiller les uns sur les autres est lié à l'image du corps. Si on est un corps, logiquement, on va veiller les uns sur les autres. Mais alors, veiller, ça veut dire quoi? Moi, ça me fait un peu peur, ce genre de mot, parfois, parce que ça fait un peu flicage, quoi. Je veille, j'observe ce que tu fais. Mais rappelons-nous que c'est dans le cadre de l'image du corps. Et... Veiller sur quelqu'un parce que nous appartenons au même corps, parce qu'on est tous les membres d'un même corps. Et on sait très bien que si un membre va mal, ça va affecter tout le reste du corps, que ce soit le corps local de l'Église locale ou le corps de Christ, le corps de l'Église universelle. Et pourtant, socialement, on vit dans une période qui nous enseigne ça extrêmement clairement. On est liés les uns aux autres parce qu'un petit pourcentage de gens, il est petit quand même, hein, sont malades du Covid. Le pays et même le monde prend des mesures pour les soigner, pour protéger les autres. On le vit en ce moment, cette notion de veiller les uns sur les autres. Hein, on vous dit gardez votre masque parce que pensez aux autres, pensez à protéger les autres. Des secteurs d'activité entiers sont à l'arrêt et le corps social, on va le dire comme ça, souffre de tous les côtés pour un petit nombre, il faut reconnaître, un petit nombre de gens qui ont été contaminés et un encore plus petit nombre qui sont malades à l'hôpital ou voilà, en réanimation. On le vit ça. C'est-à-dire qu'un malheureux petit virus a réussi à arrêter tout un tas d'activités et à faire réaliser qu'on est dépendants les uns des autres. Ah, veiller les uns sur les autres, ça entraîne des contraintes. On le vit, hein, ça entraîne des contraintes. Et franchement, qui aime les contraintes? Ah. Et plus on est jeune, moins on accepte les contraintes, ce qui est un peu logique. Et tout ça parce que la menace du mal est prise au sérieux. C'est parce que, alors, nos gouvernements se débrouillent comme ils peuvent. Je ne suis pas là pour juger si c'est bien, si c'est trop, si ce n'est pas assez. Enfin, ils prennent la menace au sérieux. Voilà. Et veiller les uns sur les autres dans le corps spirituel qu'est l'Église, corps de Christ, c'est aussi avoir le souci des autres. Et quand vous voyez à l'échelle mondiale, à l'échelle de notre nation, ce que ça représente, je crois que c'est une très bonne image de ce que ça peut représenter dans l'Église. Et dans l'Église, ce n'est pas forcément le virus qui fait le problème, mais c'est la désobéissance à Dieu, c'est le péché. C'est un sacré virus, celui-là. Pensez à se préoccuper des autres, à prendre à cœur, et ça, ce sont les différentes traductions de veiller. Hein. Pensez à se préoccuper d'eux, prendre à cœur. C'est ce qu'on fait par rapport au virus. Et il y a un virus qui dure depuis toujours, c'est le péché, évidemment. L'éloignement de Dieu, la désobéissance à Dieu. Veillez pour que ce virus ne détruise pas l'autre. Nous-mêmes, notre prochain. Et c'est ça, c'est dans ce cadre-là qu'on parle de veiller. 1 Corinthiens 12, 25 est aussi traduit comme ça. Que les membres prennent sincèrement à cœur, j'aime bien cette traduction, prennent sincèrement à cœur la situation des autres membres. Donc voyez, veiller, ce n'est pas fliquer, c'est prendre sincèrement à cœur la situation des autres membres. Et quand j'avais parlé des ministères cachés dans l'Église, je crois que c'était en septembre, j'avais pensé à tous ces chrétiens et chrétiennes dans notre Église qui prennent à cœur la situation des autres. Et c'est tellement une bénédiction d'entendre un frère ou une sœur s'inquiéter pour quelqu'un d'autre. Non pas pour fourrer son nez dans ses affaires, mais simplement parce qu'il est authentiquement inquiet, parce qu'il a pris à cœur sa situation. C'est important parce que Paul, malheureusement, à un moment donné de sa vie, va reconnaître que tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Aïe. Donc, le contraire de veiller, c'est-à-dire de prendre à cœur la situation des autres, c'est chercher son propre intérêt et non celui de Jésus-Christ. On ne peut pas séparer Jésus-Christ de son corps. Si nous sommes le corps de Christ, c'est qu'on ne s'occupe pas des intérêts de Christ quand on ne s'occupe pas de son prochain. Paul l'affirme, 1 Corinthiens 12, 27, « Vous êtes le corps de Christ ». Alors nous sommes heureux de bénéficier de la vie de Christ qui se répand dans son corps, universel ou local. C'est un privilège d'appartenir au corps de Christ. Pensez à tout ce que Dieu nous a donné, son pardon, son salut, sa paix, la promesse de la vie éternelle qui commence dès maintenant. On l'a rappelé au moment du baptême. Le pardon, être ami de Dieu, recevoir ses dons, ses promesses, être réconcilié avec Dieu, recevoir ses encouragements. Aussi au travers les uns des autres. Mais c'est aussi une responsabilité. Et souvent, on n'en parle pas de cette responsabilité vis-à-vis des autres. Je suis responsable de l'autre. Alors, il ne s'agit pas de me culpabiliser, mais de se rappeler quand même, au fond, que je suis responsable de l'autre. S'intéresser à eux, veiller sur eux, se préoccuper d'eux, et comme le dit cette belle traduction, se préoccuper et prendre à cœur. Prendre à cœur la situation de l'autre. Alors vous savez, il y a une devise qu'on dit souvent, on le dit en riant, Chacun pour soi et Dieu pour tous. Eh bien, c'est tout le contraire de la parole de Dieu. N'allez pas imaginer que c'est dans la Bible. Chacun pour soi et Dieu pour tous, ce n'est pas du tout une devise biblique, bien au contraire. Alors, on peut se poser la question, mais alors, c'est mal de chercher son intérêt ? Paul, il dit, là, il pense qu'à leur intérêt. Non, je ne pense pas. Hein. Dieu veut qu'on prenne soin de nous aussi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, pas plus, pas moins. Comme. Donc, c'est pas mal de chercher son intérêt, sauf si c'est au détriment de l'autre. Et je pense qu'on a eu un bon exemple cette semaine avec la sono. Gros problème de la sono. Une dame est venue d'une autre église pour essayer d'aider les responsables de la sono. Cette dame, elle avait beaucoup d'autres choses à faire. Elle a sa profession, elle a son travail dans son église. Et elle aurait pu chercher l'intérêt, non pas le sien, mais de sa propre église. Et ne pas donner de temps à notre équipe. Pourquoi est-ce qu'elle l'a fait ? Parce qu'elle a veillé sur les autres, qui appartiennent au même corps, pas local, mais corps universel. De même, le partage qui vient d'avoir lieu sur Internet, alors je ne sais pas trop ce que c'est, mais j'ai cru comprendre, c'est une sorte de webconférence pour aider les chrétiens à régler leurs problèmes de sono en ce moment. Merci. Je crois que ça aussi... C'est formidable. Ça montre que les membres du corps de Christ en France veillent les uns sur les autres, sans idée de compétition ou de supériorité. Ceux qui avaient trouvé la solution, ben, ils auraient pu la garder pour eux, puis en plus se moquer des pauvres autres qui ne comprennent rien. Hein ? C'était drôle, ça aurait pu valoir le coup. Pas du tout. Ils ont veillé sur les autres. Il y a un besoin et j'y réponds. Et ça, je trouve que c'est super encourageant. Et ça contredit, pour une fois qu'on peut contredire la Bible, hein, ce que Paul dit, chacun pense à son intérêt et pas celui de Jésus-Christ. C'était une période de sa vie, il n'a pas dit ça tout le temps. Mais il y a des périodes où ça se passe comme ça, c'est vrai. Et là, moi, ça m'a beaucoup encouragée. Parce qu'être membre d'un corps et veiller les uns sur les autres, c'est aussi perdre un peu de notre temps et donc de notre liberté. Dieu nous a créés pour vivre les uns avec les autres et pas seuls sur une île déserte, même si parfois on peut avoir envie d'être sur une île déserte. Mais on est fait, on a été créés pour vivre avec les autres, pour interagir, pour s'aider, pour s'exhorter, pour veiller les uns sur les autres. Alors veillez pour protéger l'autre de la séduction du péché. L'Épître aux Hébreux a été écrite à un groupe de gens qui avaient accepté le salut en Jésus-Christ, mais qui étaient tentés de retomber dans les anciens rites de la loi. Alors les sacrifices, les fêtes, tous les rites autour du sabbat, la circoncision, etc. Donc d'abandonner la foi dans le sacrifice de Jésus et passer ainsi à côté des promesses divines. Veiller pour protéger les autres de la séduction du péché. Ben, le péché, c'était de perdre la notion du sacrifice de Jésus. Et je pense que c'est des choses auxquelles nous aussi, on est appelés à prendre garde. Perdre la notion de ce que Jésus a fait pour nous. Parce que c'est rabâché, parce qu'on le redit tout le temps, et ça finit par perdre de sa saveur. Attention, vous savez, c'est comme les chants, je ne sais pas si... Ma sœur avait un truc terrible, c'est quand elle achetait un nouveau, c'était les disques à l'époque, hein, les vinyles, quand elle achetait un nouveau disque, elle nous le mettait, la maison était petite, donc on avait ce disque pendant des semaines, ce qui fait que je suis devenue allergique à un certain nombre de morceaux de musique, il ne faut surtout pas m'en parler parce que je les ai trop entendus. Et vous savez, je crois que l'être humain a un peu cette tendance, trop c'est trop, du coup on n'en veut plus. Et je pense qu'à force d'entendre parler du sacrifice de Jésus, de ce que Jésus a fait à la croix, on perd la réalité qui est derrière. Et les mots peuvent nous lasser d'ailleurs. Attention, attachons-nous à la réalité qui est derrière. Et combien de chrétiens ont glissé progressivement et se sont détournés du Seigneur parce que personne n'a osé les prévenir des dangers, des mensonges, de ce qui les attirait. Et par exemple, et là c'est difficile, Veiller sur les autres, moi je trouve ça rudement délicat. C'est un peu ce qu'on fait avec la maison d'Élie, mais on le fait plus professionnellement. Mais dans nos contacts, comme dit la Bible, jour après jour, c'est important de veiller sur l'autre pour pas qu'il garde des rancunes dans le cœur, par exemple. Là, c'est dur. Ou un désir de vengeance, une jalousie, un sentiment d'infériorité ou de supériorité, un esprit de revendication. Et ça, je me souviens qu'on a eu dans l'église pendant un temps une dame qui venait d'une famille très syndicaliste, très à gauche, très rouge, plus rouge que rouge, et elle avait gardé cet esprit de revendication. Mais c'était devenu un mode de vie, un mode de pensée qui la gênait énormément dans sa foi. Elle avait réponse à tout, elle avait une attitude très négative dès qu'on disait quelque chose, alors que ce n'était pas une méchante personne. Mais elle avait capté cet esprit de revendication. Comment lui dire ? Parce qu'il fallait veiller sur cette personne qui venait de découvrir le Seigneur. Comment arriver à lui faire passer ça ? Ça a pris du temps. On a beaucoup prié là-dessus. J'étais avec une amie. On a pris des gants sur des gants. On a passé du temps à prier avec elle pour arriver à lui dire. C'est ça, veiller. Veiller sur les autres. Oser leur dire qu'il y a un problème d'orgueil. Alors ça, c'est difficile. De jugement ou de mépris. Ou de moquerie. J'ai souvent été frappée, chez les étudiants en théologie particulièrement, de cette moquerie sous-jacente, parce qu'ils en savaient plus, ou ils croyaient en savoir plus. Et je ne me suis pas gênée pour le dire, c'était ma génération, ça, ce n'était pas un problème. Mais il faut veiller, parce que un chrétien qui se moque, c'est dur. C'est dur à supporter pour les non-chrétiens et aussi pour les autres chrétiens. Veiller par rapport aux gens qui entretiennent des vieilles haines, ça c'est dur, parce qu'elles sont souvent justifiées, ces haines, humainement. Tout ça, vous voyez, c'est délicat, mais c'est nécessaire et on ne remplit pas notre rôle si on ne veille pas dans ces domaines-là. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile. C'est dangereux, ça peut se retourner évidemment contre vous, donc ça demande énormément de prières, de délicatesse, mais il faut le faire. Et c'est ce que disait Simon Polyte. Il me disait une fois à la maison, il me disait, mais parfois les gens, ils ne veulent pas rentrer là-dedans. Il faut les laisser, uniquement quand ils seront prêts. On ne peut pas forcer, mais ça aussi c'est veiller, attendre le bon moment. Et c'est important parce que c'est quelque chose qui est très difficile à faire, qui demande vraiment une communion avec le Seigneur. Alors je ne parle pas des gens qui ont délibérément choisi la jalousie, la moquerie, le jugement, le mépris, etc. Mais de gens qui sont aux prises, même peut-être sans s'en rendre compte. Et c'est pour ça que c'est délicat, parce que quand ils ne s'en rendent pas compte, ce n'est pas évident de leur faire passer le message. Et ça demande l'action du Saint-Esprit. Et bien sûr, moi, la réponse qu'on aurait envie de donner, c'est « Oh, mais c'est sa vie, c'est pas la mienne. Suis-je le gardien de mon frère ? Et puis ça ne me regarde pas. Hein, s'il a une vieille haine dans son cœur ou s'il est jaloux de tout le monde, c'est son problème. » Eh bien, la parole de Dieu nous dit non. Veillez les uns sur les autres. Veillez, exhortez-les, afin que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. Alors, il y a un point encore plus délicat, veillez les uns sur les autres. Hébreux 10, 24 dit ceci, « Veillons les uns sur les autres pour nous stimuler à l'amour et aux bonnes œuvres. » Parole vivante, je préfère évidemment, « pour nous encourager à mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous. » Ah, « Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux aimer et à faire du bien autour de nous. » Ah, il y a un but. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'il emploie ici un mot qui se rapproche du verbe connaître, comprendre. Et c'est une connaissance qui va au-delà des apparences, qui essaie de voir la réalité derrière les apparences. C'est le mot qui a été utilisé dans d'autres passages que vous connaissez bien. Considérez les corbeaux, Matthieu 6, ou bien Moïse observait le buisson, Acte 7. Les naufragés essayaient de percer les ténèbres, Acte 27. Jacques parlait d'observer son visage dans un miroir, Jacques 1, 23. Jésus, j'aime bien celui-ci, pénétrant la ruse de ses adversaires, Luc 20, 23. Donc vous voyez, c'est observer, mais avec intensité. Et observer pour comprendre. L'idée de veiller ici, c'est vraiment de voir derrière les apparences. Alors, je connais des gens dans l'Église, dans notre Église, qui ont ce don. Vous leur dites, ça va très bien, ils vous regardent, ils disent, j'en suis pas trop sûre. Oui, il y a quelques personnes comme ça dans l'Église. Et ça, ça fait partie des dons cachés. Des gens qui voient au-delà des apparences. Et qui peuvent veiller sur vous parce qu'ils ne se laissent pas avoir par vos apparences. Il y en a. Je ne vous dirai pas les noms parce que vous allez vous en méfier. Mais non, mais non. C'est un don que Dieu leur a donné pour aider les uns les autres dans l'Église. Alors, la parole de Dieu nous encourage à considérer avec soin notre frère ou notre sœur. Pensez à eux. Essayez de comprendre la réalité derrière les apparences. Observez, faire attention. Et ici, du coup, importance du don de discernement. Alors vous allez me dire, là, waouh, arrête, c'est du flicage. C'est carrément de l'espionnage. Qu'est-ce qu'il en est de notre vie privée? Et je dirais, oui, c'est du flicage, si le but est de raconter ça à d'autres gens, simplement pour le plaisir de la conversation, pour médire ou pour se moquer. Et dans les cours de la maison d'Élie, on avait un épisode qui m'a beaucoup intriguée. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à le traduire parce que je ne connaissais pas le mot en anglais. Shriekism, ça fait appel à un oiseau, la pigrièche, qui a pour coutume d'attraper un insecte ou une bête et de l'empaler sur une épine, c'est charmant, hein, et de le dépiocer petit à petit, morceau par morceau. Vous imaginez une grosse sauterelle, là, elle va l'attraper, la mettre sur une épine, puis elle va la dépiauter morceau par morceau. Et dans les cours de la maison d'Élie, on appelait ça le shriekism, donc à partir de la pigrièche, on va dire griéchisme, on pourrait traduire. Et effectivement, si veiller sur les autres, c'est pour faire ça, hein, dépiauter votre psychologie et essayer de comprendre votre fonctionnement pour en faire un sujet de conversation. Effectivement, c'est du flicage, c'est de l'espionnage, c'est une intrusion dans la vie privée et c'est niette. Mais la parole de Dieu est claire. Et d'ailleurs, pour tout ça, il faudra rendre compte à Dieu. Chaque fois qu'on fait ça, il faudra rendre compte à Dieu. Même si c'est sous le prétexte d'en faire un sujet de prière. Mais l'idée ici, ce n'est pas ça. C'est de veiller et d'observer pour, et c'est le pour qui est important, pour stimuler à l'amour et aux bonnes œuvres, pour qu'on arrive à mieux aimer les autres et à faire le bien autour de nous, pour encourager à mieux aimer et à faire le bien. Concrètement, si un frère ou une sœur, par exemple, est en colère, et en écoutant, on va deviner qu'il veut répondre par la vengeance à une situation donnée. Ça arrive, vous le sentez. Oh là là, c'est pas seulement de la colère, je sens derrière un désir de vengeance. Qu'est-ce que Dieu attend de nous là? Eh bien, c'est de l'encourager à aimer, à se confier en Dieu, à chercher la consolation, le réconfort auprès de Dieu et à chercher la bonne réaction plutôt que chercher la vengeance. Si un frère ou une sœur plafonne au cours d'une période difficile dans son foyer, et qui n'a jamais plafonné dans sa famille, franchement, ou avec des enfants impossibles, avec un conjoint difficile ou des enfants impossibles, en considérant bien ce qu'il exprime, on va comprendre qu'il risque de prendre des mauvaises décisions. Et le Seigneur veut qu'on l'encourage à aimer son conjoint et ses enfants et à chercher des réponses auprès du Seigneur. Donc vous allez sentir ces choses-là. Et c'est ça, veiller. Veiller, c'est ça. Veiller pour qu'on arrive à mieux aimer, pour qu'on cherche les choses auprès du Seigneur, pour faire du bien autour de soi. Et il faut bien faire la différence. Et je pense que dans beaucoup d'églises, malheureusement, les gens ne veillent plus parce qu'ils ne veulent pas se mêler de la vie des autres. Ils ont vu certainement ces épisodes de griéchisme et il y a un refus. Et je comprends. Je comprends, il y a de quoi le faire. Mais revenons à la parole de Dieu. Réajustons nos points de vue sur ce que demande la Bible. Veillez les uns sur les autres pour vous stimuler à l'amour et aux bonnes œuvres. Alors, où est-ce qu'on veille les uns sur les autres? C'est bien sûr quand on est ensemble. Et il y a ce verset qui peut être interprété de toutes sortes de manières, mais qu'une le prend dans ce sens, n'abandonnons pas notre assemblée, mais exhortons-nous réciproquement. Et c'est curieux qu'ils disent, n'abandonnons pas notre assemblée, mais exhortons-nous. Parce que pour moi, le contraire d'abandonner, ce serait bah, être ensemble. N'abandonnons pas, mais exhortons. Donc c'est intéressant. Et il n'utilise pas le mot ecclésia, mais le mot rassemblement, simplement. C'est pour ça qu'il y a eu différentes interprétations. Et je pense que c'est important, chaque fois qu'on est ensemble, qu'on est rassemblés, et ce n'est pas forcément à l'intérieur de l'ecclésia, de l'église, mais c'est aussi si on fait une marche ensemble, si on fait du bricolage ensemble, si on fait un déménagement ensemble, on veille les uns sur les autres. Et Hébreux 12 nous parle de veiller à ce que personne ne se prive de la grâce. Je pense qu'on va arrêter là, parce que je ne veux pas vous mettre en retard, mais... Je pense qu'il faut demander au Seigneur de nous débarrasser des mauvaises images de veiller et de ne pas confondre veiller les uns sur les autres avec flicage, espionnage. Mais penser que c'est pour apprendre à aimer, pour se rapprocher du Seigneur, pour que nos cœurs ne s'endurcissent pas, pour qu'on ne se laisse pas séduire par le péché, etc. Il y a un but dans le fait de veiller. Ce n'est pas n'importe quoi. On ne veille pas n'importe comment. Mais on veille avec un but précis qui est celui que la parole de Dieu nous donne. Et là, c'est du ressort de notre obéissance à la parole de Dieu. On terminera la prochaine fois et on abordera « Édifiez-vous les uns les autres ». On fera de la construction la semaine prochaine. Et peut-être c'est André d'ailleurs qui devrait le faire. Construire, édifier les uns les autres. Que le Seigneur nous aide. Seigneur, nous te remettons ce message qui n'est pas facile. Parce que on a peur de choquer, et puis c'est pas toujours facile de veiller les uns sur les autres de la bonne manière, sans fliquer, sans mal agir. Seigneur, veuille nous aider à être des veilleurs et des prieurs, à veiller les uns sur les autres, comme toi tu l'as demandé, pour que chacun puisse vivre dans l'amour, pour que chacun puisse résister au péché, pour que chacun puisse se rapprocher de toi et t'obéir. Aide-nous, Seigneur, à ne pas avoir peur d'aller à la racine du problème et de poser les bonnes questions, à ne pas faire la morale. Seigneur, c'est tout un programme, mais nous te demandons ton aide parce que nous avons besoin les uns des autres. Et aide-nous aussi à recevoir, accueillir ceux qui veillent sur nous et qui veillent à ce qu'on ne s'éloigne pas de toi, à ce qu'on reste vraiment dans la communion avec toi, dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait. Seigneur, aide-nous dans les deux sens à faire et à accueillir ceux qui le font pour nous. Amen.